Nous sommes en train de faire une série d'études encore sur notre nouvelle position, nos nouvelles positions qu'on a reçues en Jésus. On a déjà vu que quand on a accepté le Seigneur comme notre sauveur personnel, c'est passé plein de choses dans nos vies. Premièrement, on est devenu une nouvelle créature, mais dans cette nouveauté de vie qu'on a reçue en Jésus, il y a plein d'autres choses qu'on a reçues qui étaient toutes données en même temps. On est en train de les découvrir une par derrière l'autre, comme quoi qu'on est des enfants de Dieu, comme quoi aussi qu'on est le temple de Dieu, notre corps est devenu l'habitation de Dieu. Aujourd'hui, on va voir que grâce au Christ, nous sommes devenus des justifiés. Quand on parle du mot justifié, c'est un grand mot qu'on n'utilise pas souvent dans notre vocabulaire de tous les jours. Nous sommes devenus des déclarés justes. Même si dans cette vie, tu as un dossier judiciaire et ça dépend. Parce que les hommes t'ont trouvé injuste, t'as commis plein de choses qui étaient des offenses à la loi des hommes et de Dieu, même si ça dépend. Quand quelqu'un accepte Jésus comme son sauveur personnel, devant Dieu, il est déclaré juste, comme s'il n'aura jamais rien fait d'offense à Dieu. Ça, c'est une position qu'on a reçue en Jésus grâce au sacrifice de Jésus. C'est vraiment extraordinaire. Qui peut se vanter d'être juste? Si on est franc, Jésus le dit à du monde qui est extrêmement religieux, que celui qui est sans péché lance le premier la pierre. La Bible nous dit qu'ils sont toutes partis un par derrière l'autre, du plus vieux jusqu'au plus jeune. Parce que c'est souvent quand tu es rendu vieux que tu réalises plus, apparemment qu'on a un petit peu plus de sagesse en vieillissant, puis peut-être qu'on a lâché de se compter des menteries à soi-même, on est plus conscient de la réalité. Fait que c'est ceux-là qui ont commencé à dire, ouais, c'est vrai, je sais pas. Les plus vieux ont commencé à réaliser, puis sont partis jusqu'à temps que les derniers s'en allent. Puis là, il n'y avait plus personne autour de Jésus. Il n'y a pas des gens qui sont justes. Il y avait juste une personne qui est restée à côté de celle qui était pour se faire lapider, puis c'est Jésus, le seul juste. Qui sont ceux qui peuvent être déclarés justes devant Dieu? Ah ben là, la Bible, elle nous appelle tous. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Qui peut être déclaré juste? Tout le monde, c'est à sa possibilité de le devenir, d'être un déclaré juste. Puis c'est gratuit. Pas parce que ça valait rien, que c'est gratuit. C'est parce que c'était trop cher, puis il fallait que quelqu'un d'autre paye pour ce prix-là. Parce que c'est impossible pour nous de le payer, mais Jésus l'a payé le prix pour nous racheter, pour qu'on puisse être justifié. Maintenant, tout le monde peut devenir juste s'il a soif, s'il le veut, s'il croit, si, il y a un paquet de si. Depuis la prédication de Jean-Baptiste, là, quand Jean-Baptiste est envoyé, il avait une mission bien spécifique. Dieu a commencé à préparer le chemin de son nouveau peuple, le peuple de justes. On va aller voir un passage dans Luc au chapitre 1, le verset 17, mais je vais vous le lire dans Parole vivante. Il y a deux versets aujourd'hui, je vais vous le lire dans Parole vivante. C'est plus comme en français courant, là, plus en français de nos jours. Dans Luc 1, 19, « Regardez bien le message prophétique que l'ange a révélé au père puis aux parents de Jean-Baptiste. Quelle serait la mission de Jean-Baptiste? » Il y a une mission bien spéciale. Ça nous dit, « Il marchera en précurseur sous le regard de Dieu » dans le même esprit, avec la même puissance que le prophète Élie. Parce que le prophète Élie, c'est un prophète dans l'Ancien Testament, puis il marchait dans l'onction de Dieu. Son cœur, c'était de ramener le peuple d'Israël à l'adoration du vrai Dieu. Parce que le peuple d'Israël s'était détourné. Le peuple d'Israël suivait Baal, puis Astarté, les faux dieux de cette époque-là. Puis Élie, ce qu'il avait, ce que son cœur bouillait, c'est de ramener le peuple d'Israël vers son Dieu. Ça nous dit que Jean-Baptiste marcherait dans le même esprit, dans la même puissance qu'Élie, avec le désir de ramener le peuple à Dieu. Ça le dit justement dans la suite du verset, pour réconcilier les parents avec leur enfant. Écoutez bien la prochaine phrase, pour amener ceux qui sont désobéissants à penser comme des hommes justes. Jean-Baptiste, sa prédication, était d'amener des gens, des pécheurs, des gens iniques, des gens méchants, désobéissants envers Dieu, pour les amener à penser comme des hommes justes. Pour former ainsi un peuple bien disposé, prêt à accueillir le Seigneur. Depuis que Jésus est mort puis qu'il est ressuscité, nous sommes en train d'assister à la naissance d'un nouveau peuple, le peuple de Dieu, le peuple de gens qui auparavant étaient tous des méchants, des égarés, des désobéissants, des pécheurs, des gens iniques. On était tous comme ça, puis Dieu est en train de nous amener à penser comme des hommes justes. C'est tout un travail que Dieu a à faire. Il n'a pas pris des personnes justes pour cela, parce qu'il n'y en a pas. Il y en a qui se pensent justes, mais ils sont comme égarés de penser qu'ils sont justes. Mais Jésus est venu pour les malades, puis merci Seigneur d'être venu me chercher, parce que j'en avais de besoin. J'étais un malade, puis je m'associe à ceux qui en avaient de besoin. Puis j'espère que vous avez compris que vous étiez tous des gens malades, puis vous aviez tous besoin du grand médecin, Jésus. Amen. Dans Tite 2,14, ça nous parle justement de l'œuvre de Jésus, puis son sacrifice à la croix. Ça dit, il s'est donné lui-même pour nous. Jésus, qui était Dieu, c'est pas n'importe qui, il était en forme humaine, mais c'était Dieu en forme humaine, puis qui est venu pour accomplir sa mission, puis à la fin, se donner, se livrer, se donner aux mains des pécheurs pour qu'on l'assassine. Mourir, pendu au bois, humilié, ils l'ont frappé, ils ont planté des lances, une lance dans le côté, ils l'ont battu de verge, ils ont tout fait. L'humilier, cracher dans la face, insulter, lui qui était le créateur de toutes choses. Jésus s'est donné lui-même afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour de bonnes œuvres. Voyez-vous quel genre de peuple que Dieu se prend pour être à son solde? Pour lui appartenir. Il prend des hommes et des femmes pécheresses, pécheurs, perdus, dans le péché par-dessus la tête. Puis là, il dit, il s'est donné lui-même pour nous racheter de nos iniquités. On était couverts de nos iniquités, mais il a payé le prix que ça coûtait pour qu'on puisse, clou, qu'il nous a sorti de nos iniquités. Puis maintenant, il nous a déposés dans son royaume, puis il a fait de nous un peuple purifié par lui et zélé pour des bonnes œuvres. Nous sommes maintenant un peuple de racheté, un peuple de personnes que Dieu a payé pour qu'on lui appartienne. Dieu a deux droits sur nous. En tant que créateur, il était déjà le propriétaire, mais en plus parce qu'il est notre rédempteur, il nous a rachetés, il a payé la dette de nos péchés, puis maintenant, on lui appartient doublement. On est un peuple purifié par lui, zélé pour de bonnes œuvres. Ça, c'est la grande ouvrage que Dieu a entrepris lorsqu'il nous a pris dans sa gang. Parce qu'il fallait qu'il nous sorte d'une autre gang pour nous faire entrer dans sa gang. Sa gang de son peuple qui pense comme des justes. C'est ça le travail de Jean-Baptiste. De prendre des gens désobéissants pour les amener à penser comme des hommes justes. Puis pour que tu en arrives à là, le Seigneur, il y a un travail à faire. Pour augmenter ta foi, puis comprendre ce qui s'est produit dans ta vie lorsqu'il t'a racheté. Ça commence là. faut que tu saches aujourd'hui que tu es un racheté. Tu es une personne qui appartient à Dieu, puis Dieu, quand il te regarde, il te regarde comme étant un juste. Tu as été déclaré juste par Dieu. Tous les apôtres, puis les premiers disciples, ont reconnu et ont reçu l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Ils ont tous passé par là. Tu ne peux pas faire partie de la gang du Seigneur, du peuple du Seigneur, sans avoir reconnu ce que Jésus a fait pour toi. C'est au moment que tu le comprends, puis que là tu le reçois, que ça se produit, que là il te pardonne tes péchés, parce que tu es repentant, parce que tu veux changer de vie, il te pardonne, il te lave complètement de tous tes péchés, il te donne son Saint-Esprit, la nouvelle vie vient de commencer. Puis ça, ça permet à tous les pécheurs repentants d'être déclarés justes. Dans Galates 2,16, ça nous dit, pour nous mettre un peu en comparaison entre la loi de Moïse, pouvait-elle rendre juste quelqu'un, et le sang de Jésus, peut-il rendre juste quelqu'un? Mais Paul a écrit une lettre aux Galates, puis dans Galates 2,16, il nous explique clairement, « Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié. » Justifié, ça veut dire déclaré juste. « Mais par la foi en Jésus-Christ. » C'est par la foi en Jésus-Christ qu'on est déclaré juste. Même ces Juifs-là qui étaient des gens qui cherchaient à mettre en pratique la loi, c'était leur vie, ils sont venus au monde là-dedans, ils connaissaient la loi, puis ils voulaient la mettre en pratique pour essayer de se penser juste, pour en arriver finalement à comprendre qu'il n'y en a point de juste, personne n'a réussi à tout mettre en pratique. Puis c'est pour ça qu'il a pu écrire ça, que c'est pas par les œuvres de la loi que tu peux être déclaré juste, mais par la foi en Jésus. Il faut que tu comprennes que le sacrifice de Jésus, c'est son sang qui a été versé, qui te permet de pouvoir devenir juste. Il dit, nous aussi, nous aussi nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi. Parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. Voyez-vous, dans la nouvelle alliance que Jésus a commencé avec son sang, quand Jésus a partagé le pain et le vin, il dit avec le vin, « Buvez-en tous, ceci est le sang de la nouvelle alliance qui est répandue pour plusieurs, pour la rémission des péchés. » C'est une nouvelle alliance qu'il a faite en son sang. Le vin représentait son sang, puis il invitait tout le monde à venir boire de son sang. Puis à cause que son sang était versé, ça nous permet d'aller s'abreuver, puis de recevoir l'ensemble de ses promesses, comme d'être justifié, d'être déclaré juste. Devant la manifestation de l'amour de Dieu, parce que c'est parce que Dieu nous aimait, qui a envoyé son fils mourir sur la croix. Parce que si Dieu ne nous aurait pas aimés, s'il n'y aurait pas eu un petit peu d'amour dans le fond, il nous aurait tous exterminés. On était tous sous la colère de Dieu. Dieu, il est en colère, mais dans le fond, il nous aimait. Puis il a permis qu'on ait un moyen de s'en sortir. C'est ça l'amour de Dieu, la manifestation de l'amour de Dieu. On méritait d'être frappé parce qu'on était désobéissant. En tant que créateur, tout le monde aurait dû obligatoirement flécher le genou devant lui. Mais dans notre rébellion, puis en plus on est venu au monde là-dedans, on était mêlés, perdus, on ne comprenait pas c'était quoi la volonté de Dieu, puis on n'avait même pas la volonté de lui obéir non plus. On a marché dans désobéissance, on lui déplaisait, on l'insultait, on l'a méprisé, on l'a rejeté, on a tout fait envers lui. Il y avait toutes les raisons de peser sur le piton, qu'un souk, on élimine tout ça, puis on refait toute une nouvelle badge d'humain. Il aurait pu le faire s'il l'aurait voulu, mais Dieu, son amour est encore plus profond que ça. Il a décidé, je vais lui montrer que je les aime. Puis il savait d'avance que ça aboutirait à ce plan-là, parce que c'était depuis avant la fondation du monde qu'il avait préparé de dire, je vais y aller, il m'a débarqué sur leur planète, puis je vais y aller payer la dette de leur péché. Je vais vivre la vie qu'il faut pour être déclaré juste. Puis après, en mourant pour leur péché, je vais pouvoir leur donner ma justice, puis de les déclarer justes, même s'ils ne méritent pas. Personne ne le mérite. Mais par la foi en Jésus, on peut saisir ce merveilleux cadeau-là d'être déclaré juste et purifié. Wow! Merci Seigneur. Puis là, devant la manifestation de l'amour de Dieu, parce que là, quand tu regardes Jésus, si tu ne vois pas l'amour de Dieu là-dedans, tu es aveugle, pas à peu près, parce que Dieu fait homme, Jésus, il est venu mourir pour les pécheurs. Tous ceux qui veulent échapper au jugement de Dieu doivent passer par la repentance puis mettre leur foi dans le Messie. Il n'y a pas d'autre bouée de sauvetage que Jésus seul. Il y a juste par Jésus qu'on peut rentrer. Il faut absolument, obligatoirement, que chaque individu sur la terre prenne une décision face à Jésus. Le prendre comme son sauveur, ou s'ils ne prennent pas de décision, mais ils vont mourir dans leur péché, puis il n'y a pas d'autre moyen pour s'en sortir, puis ils vont être jugés sous la colère de Dieu. Dans Romains 2, 4, ça nous explique un peu ce passage-là, de 4 à 6, ça nous dit, « Méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience, de sa longanimité, qui est son amour qui est étendu, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance ?» Mais par ton endurcissement puis par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère puis de la manifestation du juste jugement de Dieu qui rendra chacun selon ses œuvres. Dans ce passage-là, c'est en train de nous dire que tout le monde, en voyant l'amour de Dieu, devrait comprendre l'amour de Dieu, voir l'amour de Dieu en Jésus, puis que ça les amène à se repentir, à changer de vie, à avoir un cœur pénitent, un cœur repentant, un cœur contrit, puis de regretter le mal qu'on fait. Ça n'a pas de bon sens, comment est-ce qu'on a pu offenser Dieu? Puis en voyant l'amour de Dieu, puis que ça l'a coûté à Dieu pour qu'on puisse être sauvé, on devrait tout, on aurait dû, tout le monde sur cette planète, tomber en larmes, puis pleurer sur notre état, puis de réaliser que ce qu'on a fait, c'est grave devant lui, puis demander pardon, puis de vouloir le suivre. Tout le monde devrait faire ça. Mais les gens qui ne veulent pas de reconnaître le cadeau de Dieu, ou l'amour de Dieu, ou la bonté de Dieu, ils ont un cœur qui résiste à l'amour de Dieu. Il y a un cœur endurci, que ça nous dit dans ce passage-là, un cœur même impénitent. C'est que ça ne fait pas de peine d'être méchant, mauvais, rebelle, désobéissant envers Dieu. Mais là, il y aurait juste à attendre la colère de Dieu déverse ces gens-là. Mais nous, on l'a reçu. On y a cru. Qu'est-ce que ça nous a permis d'obtenir? Le pardon de nos péchés, d'être lavé, notre âme, c'est comme si on recommençait à zéro avec Dieu. Toute notre vie, peu importe l'âge que tu as quand tu acceptes Jésus, que tu aies 20 ans, que tu aies 12 ans, que tu aies 90 ans, quand toute ta facture de péché, il y a comme une liste qui s'est accumulée, là, Dieu n'en a pas oublié un seul, puis croyez-moi que la liste est longue. On déroulerait le rouleau ici, là, je ne sais même pas son... C'est effrayant la quantité de péché, de désobéissance et de transgression qu'on a pu faire au courant de toute notre vie. Peu importe l'âge que tu as, quand tu acceptes Jésus, te pardonne, puis il te purifie, puis il te déclare juste. Tu recommences à zéro, puis il te regarde comme faisant partie de son peuple, de ses rachetés. Puis maintenant, tu es purifié par lui, tu vas être zélé pour de bonnes œuvres comme qu'on a lu tantôt. Amen. Et amen, il n'y a pas gros de amen pour un zélé pour de bonnes œuvres. Maintenant, après que nous avons été justifiés en recevant Jésus comme notre Sauveur et Seigneur, notre nouvelle vie de justice a commencé là. Quelle devrait être notre conduite pour se maintenir juste? Parce que là, il y a un petit hic qu'on n'entend pas souvent dans les prédications. Moi, j'en parle souvent. Peut-être vous trouvez que je radote. Mais c'est important que je rappelle ces choses parce qu'il y en a d'autres, même sur Internet, qui entendent ces choses. Tu as été déclaré juste, tu as recommencé ta vie. Ta vie a recommencé à partir du moment que tu as donné ta vie. Il t'a pardonné, tu as une nouvelle vie. Toutes choses sont devenues nouvelles. Là, ça fait un jour, une semaine, un mois après, un an après. Qu'en est-il de ta vie après? Est-ce que Dieu te voit encore comme un juste? Bonne question. Faut le savoir, comment entretenir notre position en Jésus. C'est une position, une fois déclarée juste, c'est permanent, puis tu vas être juste toute ta vie. Ou s'il y a des choses qui nous parlent dans la parole de Dieu, que tu as des choses à faire ou à pas faire, à vivre d'une façon à pouvoir te maintenir pour être déclaré juste jusqu'à la fin de ta vie. Voyez-vous? C'est là qu'il faut comprendre ce que la Bible a dit. Jésus demande à tout le monde, et en particulier à ses enfants, à ceux qui lui appartiennent, dans Matthieu 6, 33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes les autres choses vont vous être données par-dessus. » Dieu venait de nous donner une piste. Jésus venait de nous donner une piste. C'est quoi la piste dans laquelle on doit s'engager? Une fois que tu dis, « Hey, je viens d'apprendre que Jésus est mort sur la croix. » Là, tu le reçois, tu es déclaré juste. Mais après ça, il dit, « Cherche dans ta vie, premièrement, il y a des choses importantes, primordiales, les premières choses, les plus importantes que tous doivent chercher après qu'ils sont déclarés justes. Il nous dit, cherche premièrement le royaume. Et, il y a deux choses, la justice de Dieu. Ouais, mais j'ai été justifié en venant à Jésus. Je suis déjà un déclaré juste. Non, Jésus dit, cherche le royaume et la justice de Dieu. Donc, dans mon enlignement, pour comprendre là, que le chemin resserré qui mène à la vie, le chemin que je dois marcher, là, bien, c'est un chemin de justice. Jésus m'enseigne que moi et vous, on doit marcher d'une manière juste, pas juste avoir le titre. C'est facile d'avoir le titre, t'as juste à te repentir. Mais après ça, est-ce que tu peux faire n'importe quoi qui te passe par la tête? C'est là qu'est la question. On a marché, il dit, veut se faire un peuple purifié par lui, zélé pour de bonnes œuvres. L'idée, c'est qu'il ne a pas créé, il s'est pas créé un peuple pour qu'on soit oisif, passif et éparpillé dans toutes les convoitises de ce monde. Voyez-vous, il y a peut-être quelque chose que Dieu veut nous montrer, qu'on doit rechercher la justice de Dieu. Ça devrait être une priorité. Ça nous dit, cherche premièrement, en premier de tout. Il y a un verset dans Romains qui dit, quiconque invoque le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. C'est pas des farces. On peut plus se permettre n'importe quoi. L'iniquité, le mot iniquité, c'est le mot injustice. Il nous dit de chercher la justice. Faire des péchés, c'est de l'iniquité, c'est des injustices. Quiconque invoque le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Les gens justifiés doivent diriger leur vie à pratiquer la justice afin d'arriver à être saints. Oups, on a un but. On a un but en tant que chrétien. Tu as été déclaré juste pour te redonner la chance de recommencer ta vie à zéro, mais pas pour te vautrer dans tous tes péchés que tu avais avant. Là, ton but, marcher dans la justice pour arriver à être saint. C'est ce qu'on voit dans le verset, dans Romains 6, 19. Il dit, je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même, donc, que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité, pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Ça devient une priorité de chercher le royaume et sa justice. T'as été déclaré juste dans le but de te donner la chance de pratiquer une vie de justice pour arriver à être saint. Parce que c'est notre désir, depuis qu'on a donné notre vie au Seigneur, c'est notre désir de sortir de notre vie de péché. C'est ça, la repentance. On regrettait d'être dans nos péchés. On avait un cœur pénitent. On t'a pas endurci. On avait honte d'être ce qu'on était avant d'accepter Jésus. Moi, en tout cas, j'étais comme ça. Je le savais que j'étais pécheur, puis je savais que je m'en allais en enfer, puis je voulais pas y aller. Mais quand j'ai compris que Jésus est mort sur la croix pour pardonner mes péchés, j'étais content. J'ai voulu être pardonné, puis j'y ai donné ma vie. Ma vie a commencé à changer à partir de ce moment-là. Puis là, mon but, j'ai comme fruit de marcher d'une manière juste pour arriver à être saint, comme Jésus, mon maître. Alléluia! Nous ne devons plus marcher selon les pulsions, les péchés de notre chair, mais parce que la direction que le Saint-Esprit va nous amener. Je vais vous lire Romains 8, versets 13 et 14, mais je vais vous le lire dans Parole vivante, qui est encore plus en français, parce qu'on le lit souvent dans la version Louis II, mais ça va nous faire élargir notre manière de penser, de le lire dans Parole vivante. Regardez bien, il s'adresse à des chrétiens, ce verset-là. Il s'adresse pas aux gens du monde. Ça dit, si vous continuez à vivre ces impulsions, selon la chair, là, il parle de la chair dans ce contexte-là, si vous continuez à vivre selon ces impulsions de péché, ces passions de péché, ces convoitises de péché de notre corps, puis à le laisser régner en vous, ce corps-là, ça dit, vous marchez vers la mort. Puis pour dire ça, il fallait que tu sois vivant pour marcher vers la mort. Sinon, si tu étais déjà mort, on ne dirait pas tu marches vers la mort, tu vas juste rester dans la mort. Mais là, il parlait aux chrétiens, ce verset-là. Vous y relayez les versets un pas avant puis un pas après. Ça parle à des chrétiens. Puis ça dit, si tu vis selon la chair, vous mourrez. Puis ça dit en Louis II. Ça s'adresse à des chrétiens. Si tu vis... encore en plus élaboré. Si tu vis selon les pulsations charnelles de tes péchés, puis tu as le goût de pratiquer tes péchés, puis tu te livres à tes péchés, une fois que tu es sauvé, mais tu t'en vas à la mort. C'est ça que ça dit, ce verset-là. Puis le contraire, en continuant, il amène l'idée contraire. Si, par contre, par la puissance du Saint-Esprit qu'on a reçu quand on s'est converti, vous livrez à la mort les actes mauvais, puis vous accomplissez dans votre corps charnel. Là, il dit, vous vivrez réellement. Ça veut dire, tu as deux chemins devant toi quand tu es chrétien. Parce que ceux qui sont pas chrétiens, ils n'ont juste un chemin, c'est le chemin qui s'en va vers la mort. Il y a une possibilité de tomber, avoir un deuxième chemin s'ils acceptent Jésus. Nous, on l'a accepté, puis on a été pardonnés. Maintenant, il y a deux chemins. Il y a le chemin de la pulsation de nos plaisirs charnels, de nos péchés, qui, si on se livre à cela, puis on pratique cela, une fois que tu as été justifié, ça t'amène à la mort. Même après avoir été déclaré juste. Ça mène à la mort. Si au contraire, on a reçu le Saint-Esprit en marchant par la puissance de Dieu, tu fais mourir les actions de ton corps, tu vas vivre. Puis quand tu marches avec le Seigneur, puis tu es en communion avec son esprit, puis tu fais mourir les actions de ton corps, tu te maintiens dans la vie parce que tu l'as reçu. C'est ça le chemin d'un chrétien. Un combat perpétuel contre sa chair, contre les convoitises de ce monde, contre les tentations du diable. Il y a une guerre qui est commencée. Le diable, lui, attire tout le monde dans leur convoitise puis dans leur péché. Tout le monde s'en va sur le mauvais bord. Nous, c'est pas là qu'on va aller. On va aller dans la vie éternelle. On va aller au ciel. On va aller dans le paradis. C'est là, il n'y a qu'un seul chemin, puis c'est Jésus qui l'offre. Il nous a donné la grâce de pouvoir être déclaré juste. Puis une fois qu'on est justifié, continuons à travailler vers le chemin de la sainteté. Les déclarés justes qui marchent dans l'injustice, parce que tu peux avoir été déclaré juste et de continuer à marcher volontairement dans tes injustices. « Oh, c'est pas grave, Jésus est mort sur la croix, je l'ai accepté il y a 25 ans, aujourd'hui je suis dans l'adultère, je suis voleur, je suis menteur, nomme-les toutes les péchés, là. On les nomme toutes, je suis de même, c'est pas grave, Jésus m'a déclaré juste il y a 20 ans. » Puis aujourd'hui, on sera là-dedans pour penser que la grâce couvre tous nos péchés automatiquement, nos péchés passés, présents et futurs, c'est un mensonge. Quand tu as accepté Jésus, la grâce, c'est de recevoir le pardon. Il a pardonné tes péchés passés et présents. Les autres, après ça, vous allez voir qu'il y a quelque chose à faire pour se maintenir dans le pardon. Autant quand je suis venu à Jésus, parce que je t'ai repentant, j'ai confessé que je croyais en Jésus, il te le donne. Après ça, il te demande de marcher d'une manière vers la sainteté, puis vous allez comprendre des éléments. D'ailleurs, je ne le dis pas tout de suite. Mais les déclarés justes, je veux finir cette idée-là, ceux qui ont été déclarés justes, mais qui marchent volontairement dans l'injustice, hériteront le salaire des injustes. 1 Corinthiens 6, 8 à 10. Paul, il parle encore à des chrétiens dans ce verset-là. Il est en train de le dire en commençant, « Mais c'est vous qui commettez l'injustice. » Il est en train de lui reprocher quelque chose, puis il est en train de dire que ces gens-là qui écoutaient sa lettre, il y avait des gens là-dedans qui étaient injustes. Ils commettaient des injustices. C'est le contraire d'être déclaré juste, ça, là. T'es déclaré juste, tu peux pas te permettre d'en faire des injustices. Mais il parle à des chrétiens qui en ont fait des injustices. Il dit, c'est vous qui commettez l'injustice et qui dépouillez, parce qu'il est à valeur en plus, les uns envers les autres. Et c'est envers des frères que vous agissez de la sorte. Puis là, il continue son idée. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Il est en train de dire, c'est vous qui commettez l'injustice, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas? Il n'y a pas de place pour l'injustice dans la vie chrétienne. Notre poursuite devra être que pour rechercher le royaume et sa justice. Comprenez-vous? On ne peut pas volontairement vouloir se livrer dans le péché une fois que tu as été déclaré juste. Parce qu'il n'y a aucun injuste qui héritera du royaume. Puis il parle à des chrétiens dans ce verset-là. Nous ne sommes pas justifiés en pratiquant ces commandements, parce que les commandements ont été donnés dans la loi de Moïse. On n'est pas été déclaré juste parce qu'on a pratiqué les commandements. On a été déclaré juste parce qu'on a mis notre foi en Jésus. Mais nous ne devons plus transgresser ces commandements. Parce que Jacques, il nous dit dans Jacques 2, 10 à 11, « Car quiconque observe toute la loi, mais pèche contre un seul commandement, devient coupable de tous. » Ça veut dire, autant que j'ai pas été déclaré juste parce que j'avais tout pratiqué la loi, non, j'ai été déclaré juste à cause de la foi en Jésus, mais une fois que je marche dans la foi en Jésus, je dois faire en sorte de ne plus transgresser les commandements de Dieu. Parce que si j'en pêche contre un des commandements, je deviens coupable de tous. Ça parle encore à des chrétiens. Jésus dit, je ne suis pas venu abolir la loi, il dit, je suis venu pour l'accomplir. Puis là, il a rajouté, il dit, quiconque mettra en pratique les plus petits commandements puis qui enseignera aux autres à le faire, sera appelé grand dans le royaume. Mais celui qui met pas en pratique puis enseigne aux autres à pas y mettre en pratique les commandements, mais il dit va être appelé le plus petit dans le royaume. Dieu n'a pas enlevé ses commandements. Jésus, il n'a pas enlevé ses commandements, sont encore là. Il a dit, tu ne feras point d'adultère, mais Paul s'en est resservi. Il dit, les injustes n'héritent pas le royaume, que ce soit impudique, idolâtre, adultère. Il nomme les commandements. Tu peux pas être un transgresseur des commandements puis de penser que tu marches dans justice. Mais que devons-nous faire lorsque nous péchons? Parce que ça peut nous arriver. Ouais, ça peut arriver que j'ai commis un péché depuis que j'étais Jésus. Est-ce que ça vous est arrivé de commettre un péché? Mais voyez-vous, l'idée, là, il y a quelque chose, là. Puis il fallait que Dieu prépare quelque chose aussi pour ces cas-là. Il savait qu'on n'était pas parfait. Puis il savait qu'il prenait des gens imparfaits, puis il fallait qu'ils les amènent parfaits, comme Jésus. Puis entre le point A au point B, il y a du temps, puis il y a beaucoup de faillites, il y a beaucoup d'enfargements, il y a beaucoup de choses qui se produisent involontaires. Des fois peut-être volontaires, mais là, il faut se réveiller, c'est un combat, c'est une lutte à mort jusqu'au sang contre le péché. C'est pas des farces. Faut être prêt à se battre parce que le péché, ça prend pas grand-chose si tu le laisses entrer dans ta vie, tu vas te refroidir, le Saint-Esprit va être attristé, puis il peut même sortir de ta vie puis te livrer à toi-même, puis tu vas périr loin du Seigneur. C'est pas des farces. Il y en a plein de versets dans le Nouveau Testament qui parlent de gens qui ont abandonné le Seigneur. C'est pas parce qu'ils marchaient dans la sainteté qu'ils ont abandonné. C'est parce qu'ils se sont laissés aller. Les chrétiens doivent réaliser que Jésus nous a enseigné dans sa parole que Dieu continue de nous maintenir justes. Après avoir accepté Jésus, il continue à nous maintenir justes, mais sous plusieurs conditions. Il y a un travail, vous allez voir qu'il y a des versets qui parlent qu'il y a quelque chose à faire quand tu pêches. C'est pas automatique que pardonner tes péchés passés, présents et futurs. Quand on va lire ces versets-là, oui, là, il faut inclure ça dans notre pensée, puis commencer à mettre ça en pratique. Mais si je retombe sans faire exprès, j'ai de quoi? J'ai un avocat qui intercède parce que Jésus veut pas que je reste dans cet état-là. Mais il y a des choses qu'il nous demande à nous dans ces cas-là. Premièrement, il nous demande de confesser nos péchés en demandant pardon. C'est là qu'on va être purifié. Il nous dit ça dans 1 Jean 1:9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier. Voyez-vous, ça, si on ne le met pas ce verset-là, on pense que tous nos péchés sont pardonnés automatiquement. Ça veut dire que je peux faire tout ce que je veux, n'importe quand. C'est pas grave, j'ai accepté Jésus il y a 20 ans. Je suis toujours pardonné. Non, tu n'es pas toujours pardonné. Pense pas que tu es toujours pardonné. Ce verset-là nous dit qu'on n'est pas toujours pardonné. Il y a une condition dans ce verset-là, il y a un gros « si ». Toutes les places qu'il y a des « si » dans la Bible, on aurait dû les écrire en majuscules, puis les souligner, puis les encadrer, parce que c'est des conditions importantes, là. Puis il y a beaucoup de gens, les voient jamais les conditions, puis ils n'en parlent jamais de conditions. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Pourquoi qu'il va me pardonner? Juste après que je les aie confessés, Jésus n'est pas mort à la croix pour pardonner tous mes péchés. Non, ce verset-là, il dit, faut que tu confesses tes péchés. Fait que là, on est en train d'embarquer dans un chemin que faut pas que je me pense que tout est accompli, puis que tout est fait, puis j'ai pas d'effort à faire. Dieu t'a donné une chance de recommencer à zéro. Fais pas exprès de pécher après que tu as accepté en te disant, c'est pas grave, je suis sous la grâce. Je peux faire tout ce que je veux comme je veux. Non. C'est pas de même que ça marche. Autant qu'il fallait que tu sois repentant pour accepter Jésus, faut que tu demeures dans repentance tout le reste de ta vie. Chaque fois que tu pêches, confesse-les. À chaque fois qu'on pêche, c'est comme si on y frappe un coup de poing d'en face à Dieu. On l'injurie, on l'insulte, on rit de lui comme si ça serait pas grave. Oui, c'est aussi grave. Les péchés après que tu sois chrétien que les péchés qui étaient avant que tu sois chrétien. Le salaire du péché, c'est la mort. Puis un péché, ça reste un péché que tu sois avant d'être chrétien ou après d'être chrétien. C'est aussi grave. Puis Dieu veut pas qu'on en fasse de péché. Il veut un peuple purifié par lui et zélé pour de bonnes œuvres. Un peuple qui marche dans la justice pour arriver à la sainteté. Un autre verset dans Matthieu 6, 12 qui nous parle dans la même idée qu'il faut confesser. Jésus l'a enseigné dans la prière du Notre Père. Il dit, pardonne-nous nos offenses, comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Pourquoi Jésus a rajouté ça? Parce que Jésus, il manque des conditions pour le pardon. Si tu veux que Dieu te pardonne, il faut que tu sois capable de pardonner aux autres. Ça, là, on passe souvent à côté de cette prière-là où on la récite rapidement sans penser. Pardonne-moi, Seigneur, de mon offense que j'ai faite. Ah, oui, c'est vrai, l'autre, il m'a fait de quoi, je vais y pardonner. Si tu gardes des rancunes contre les autres, là, regardez bien le verset tout de suite après, dans Matthieu 6, 14 et 15. Encore une autre condition qui est expliquée, la même condition, mais expliquée. Jésus a ajouté plusieurs conditions au pardon. Il dit, si vous pardonnez aux hommes leur offense, votre Père céleste vous pardonnera. Là, on parle d'une relation Père-Fils, votre Père. Pour les autres qui ne sont pas chrétiens, c'était pas leur Père, là. C'était, vous avez pour Père le diable. Mais pour ceux qui disent que Dieu est leur Père, c'est parce que tu es un enfant de Dieu. Puis Dieu nous dit dans ce verset-là, si tu veux que je te pardonne, faut que tu pardonnes aux autres. Tu peux pas être rancunier puis être chrétien. C'est un autre péché qui te prive même de recevoir le pardon de Dieu. Donc, si tu ne reçois pas son pardon, tu es loin d'être déclaré juste. Tu es déclaré pécheur. Pas dans le sens que tu es un pécheur, mais tu es un enfant de Dieu pécheur, ou appelé ça en d'autres versets, charnel. Comme je l'ai dit, ceux qui marchent selon la chair ou marcher selon l'esprit. Si tu pèches, tu es un charnel. Puis si vous marchez selon la chair, vous mourrez, que ça dit. L'idée, c'est qu'il faut réaliser qu'on a un chemin de sainteté à poursuivre, à chercher premièrement le royaume et sa justice. La justice de ce royaume-là, c'est une vie de sainteté que Dieu nous appelle. Il t'offre le pardon si t'es sincère. Si t'es sincère, puis t'es vigilant dans ta foi, tu vas reconnaître que t'es pécheur, puis quand t'en fais un, tu vas l'avouer. Tu ne caches pas les affaires, tu demandes pardon. Tu demandes à Dieu dans la prière, notre Père, pardonne-nous nos offenses, comme aussi nous le pardonnons. Puis vu que je pardonne aux autres, mais ton Père céleste va te pardonner. Dieu veut pardonner, il veut garder le contact avec ses enfants, mais Jésus nous a avertis avec ces versets-là, puis c'est pas pour rien qu'ils sont là. Il veut pas qu'on se pense, moi je veux être pardonné, puis les autres, je veux tous qu'ils soient condamnés. Il veut pas qu'on soit des gens comme ça. Il veut qu'on pardonne à ceux qui nous font du mal, puis de comprendre que son pardon, c'est une grâce, c'est un cadeau qu'il nous donne, puis il y a des conditions pour y arriver. Si tu confesses tes péchés, là, il est fidèle et juste pour te les pardonner. Parce que Dieu est fidèle. Mais apprenons à s'avouer comme qu'on est, parce qu'on en a fait d'autres après. Ça se peut pas qu'on n'ait rien confessé à Dieu jamais, ça se peut pas. On devrait tous être en train, continuellement, régulièrement, d'être en train de combattre contre un péché dans notre vie, au moins un. Puis quand, en étant dans ces états-là, qui n'est pas la volonté de Dieu dans notre vie, de le confesser à Dieu qu'on a besoin qu'il nous pardonne. Parce que chaque fois que je maintiens cet élan-là de péché dans ma vie, je continue à offenser le Dieu trois fois saint. J'ai besoin d'être continuellement pardonné. Fait que ça se répète, mais mettons c'est un mauvais trait de caractère, puis on fait du mal aux autres, n'importe quoi. Mais il faut continuer à demander pardon au Seigneur continuellement pour confesser cette chose-là jusqu'au jour où il va nous en délivrer. Puis là, on ne l'aura plus, ce problème-là. Mais il faudra travailler sur d'autres choses, parce que c'est sûr que si je vise à être saint, j'ai encore bien des choses à changer. Amen. Juste encore, je ne savais pas si j'étais conscient. Il est important de marcher dans la foi, dans ce que je vous dis là, c'est écrit, c'est biblique. Là, j'ai tiré mon message un peu, là, un petit peu plus long. Ça, j'ai pas mis tous les versets. Il y avait trop de points à parler de ce sujet-là. Mais je vais pour abréger, faut y aller tout de suite au but. Il est important de marcher dans la foi avec une bonne conscience. C'est pas juste la foi, c'est la bonne conscience de ce qu'on marche d'une manière droite. Si notre conscience nous accuse, si le Saint-Esprit nous parle sur des choses, c'est des choses tout de suite à confesser à Dieu. Parce que notre conscience est déjà au courant que, oui, je fais des affaires des fois qui n'est pas correct, il faut demander pardon. Mais si le Saint-Esprit en plus nous en montre, il faut lui demander pardon, puis il faut lui demander de nous aider à s'en sortir. Dans 1 Timothée 1,19, ça dit qu'il faut garder la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ont fait naufrage par rapport à la foi. Tu as beau vouloir rester dans la foi, mais si tu te permets d'agir consciemment dans des choses qui sont que tu sais que c'est pas correct, puis tu le fais, mais tu vas finir dans ta vie que tu vas faire un naufrage par rapport à la foi. Ta foi va être détruite, ta foi va être sans efficacité. Ça ne sera plus la foi qui sauve. Jacques n'a parlé qu'il y a la foi qui sauve, puis il y a la foi qui sert à rien. La foi qui sauve, c'est la foi qui a les œuvres. Quelles œuvres? Les œuvres que Dieu nous demande de faire. La foi sans les œuvres, c'est juste croire en Jésus, mais sans vouloir suivre. Mais sans les œuvres, ça sert à rien, cette foi-là. Ça sauve pas personne. Notre position de juste devant Dieu, comme je vous dis, on l'a reçu en notre conversion, notre position de juste devant Dieu dépend de notre communion avec Jésus-Christ. C'est là que notre justice est maintenue par le sang de Jésus. Alors regardez bien le prochain verset dans 1 Jean 1,6. J'achève. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, marcher dans les ténèbres, c'est marcher dans le péché. Si je dis je suis en communion avec le Seigneur, mais je pratique l'adultère, je pratique des péchés, ça dit, nous mentons. On se fait des accrocs, on se pense, mais on ne l'est pas devant Dieu en communion avec Jésus. On se pense en communion avec Jésus, mais on pratique des péchés. Tu ne peux pas être en train de pratiquer des péchés et de demeurer en communion avec Jésus. Ça ne marche pas. Il dit, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. La vérité, ça se pratique, c'est pas juste une théorie. Ta parole est la vérité, là on apprend parole puis on pense qu'on est dans la vérité. Non, tu dois pratiquer la vérité, c'est quelque chose que tu dois faire. T'éloigner du péché pour maintenir ta communion avec Dieu. Regardez bien. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de toute iniquité. Fait que si tu marches loin du péché, tu es en communion avec le Saint-Esprit, tu es en communion avec Jésus, puis le sang de Jésus te maintient sur toi, puis c'est le sang de Jésus qui nous rend juste. Tu es toujours déclaré juste. Si tu tombes dans le péché, puis tu t'en rends compte, tu demandes pardon, puis là, il est fidèle et juste pour te pardonner, puis tu es encore sous le sang de Jésus, son sang te purifie. Mais si tu pratiques volontairement le péché, puis tu te penses en communion, tu es un menteur, tu pratiques pas la vérité, puis le sang de Jésus n'est pas en train de te pardonner, tu n'es plus déclaré juste, puis continue dans ce voie-là, tu vas mourir spirituellement. C'est ce que je fais un résumé avec les autres versets. C'est ça que c'est la voie qui mène à la mort. Tu peux pas te permettre de pratiquer volontairement le péché sans rien confesser. Ceux qui marchent comme ça, ils ne marchent pas en communion avec Dieu, puis ils ne marchent pas dans la lumière, ils marchent dans les ténèbres, puis ils ne savent pas où ils s'en vont, parce que les ténèbres ont aveuglé leurs yeux. Ceux qui pratiquent volontairement le péché sont débarqués du chemin resserré, ils ont fait naufrage par rapport à la foi, puis sont rendus dans le chemin large et spacieux qui mène à la perdition. T'as beau savoir que Jésus sauve, puis avoir encore les deux pieds dans le chemin large qui mène à la perdition. C'est, faut pratiquer la vérité, puis pratiquer la vérité, c'est de confesser notre état à mesure, puis demander l'aide au Seigneur de s'en sortir. Puis il est fidèle et juste, puis il va nous pardonner à chaque fois. Un dernier verset. Il faut pas qu'on soit orgueilleux, frères et sœurs, pour demeurer dans la communion avec le Seigneur. Faut pas être un orgueilleux. Faut imiter l'exemple que Jésus a mentionné, l'exemple du pharisien puis du publicain qui était dans le temple. Dans Luc 18, le verset 10 à 14, c'est le dernier passage. Il y a deux hommes qui montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien, l'autre publicain. Le pharisien, lui, debout, il priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu! » Lui, il se pensait juste. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, sont injustes, sont adultères. » Ou même comme ce publicain, il était deux dans l'église, là, dans le temple, puis lui, il se pensait juste, puis je suis pas comme ce publicain-là. Je jeûne deux fois par semaine, je donne la dîme de toutes mes revenus. Lui, il se pensait top, puis il se pensait juste, puis il se pensait être en train d'accomplir la volonté de Dieu. Le publicain, il se tenait à distance, puis il n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait à la poitrine en disant, « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Jésus qui parle, je vous le dis, celui-ci est descendu dans sa maison justifié, déclaré juste, plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, celui qui s'abaisse se sera élevé. Quelle est, vous pensez, la vraie attitude qu'un chrétien qui veut demeurer en communion avec son Dieu, quelle serait la meilleure attitude à adopter? L'humilité, de demander pardon, de demander à Dieu qu'il soit apaisé envers lui, parce qu'il se reconnaissait pécheur, même si tu as été déclaré juste par Jésus. Il en a fait pareil des péchés, même l'autre qui payait à dîme, puis qu'il se pensait bon, il en faisait lui tout, il n'y a point de juste, mais il se pense juste, c'est là qu'est l'erreur. L'orgueil amène les gens à se penser bon, puis à ne pas être dans la position que Jésus demande. C'est ceux qui sont capables de, Seigneur, j'en fais encore, je te demande pardon. Mandez pardon à tous les jours. Mandez pardon plusieurs fois par jour. Chaque fois, vous réalisez, « Oh non, j'ai répondu sec à ma femme. » Faut-tu demander pardon au Seigneur? Faut-tu lui demander de l'aide? Tu sais, des fois, hein? Puis rendre grâce en toute chose, c'est sûr, c'est officiel. C'est d'avoir toujours l'esprit dans l'état qu'on a besoin continuellement que Dieu nous arrose de sa grâce, de son pardon, du sang de Jésus. Puis à tous les jours, on a besoin. C'est de même qu'on se maintient justifié. Prions. Seigneur, je te remercie pour ta parole qui nous enseigne à demeurer humble puis à avouer notre état réel devant toi. Je te remercie pour l'œuvre accomplie de Jésus qui nous donne à chaque jour la possibilité de pouvoir être maintenu sous son sang puis d'être déclaré juste. Seigneur, on ne veut pas sortir de cette position-là. Pardonne-nous tous nos péchés, Seigneur, tout ce qui n'est pas de toi dans nos vies. Puis il y a des choses qu'on ne comprend pas, mais montre-nous-les pour qu'on puisse s'en sortir. On veut pas pratiquer volontairement le péché. On veut pas attrister la communion qu'on a avec ton Saint-Esprit. On veut se maintenir rempli de ta présence et de ta grâce, recouvert de ton sang, puis qu'on soit toujours regardé par les yeux que tu nous vois comme des justes à cause du sacrifice de Jésus. Merci, Seigneur, de cette possibilité que tu nous donnes de pouvoir de demeurer sous ta grâce. Dans le nom de Jésus. Amen.